Vous écoutez France Culture. Les humanités. Aujourd'hui, les vendredis de la philosophie par François Noudelman.
Les vendredis de la philosophie, notre sujet d'aujourd'hui, Beauvoir, philosophe. Lors de son succès à l'agrégation, en même temps que Jean-Paul Sartre, on dit alors que c'était elle, Simone de Beauvoir, la plus philosophe. Mais l'histoire fameuse de leur couple a parfois masqué son apport théorique et son propre rôle dans la conception de l'existentialisme. De même, la puissance philosophique du deuxième sexe, ce livre qui a tant compté dans l'histoire du féminisme, a souvent été voilé par l'analyse seulement sociologique. La pensée de Beauvoir implique pourtant une ontologie du sujet et une politique de la liberté qui ont marqué l'histoire de la philosophie. Le renouvellement actuel de la réflexion sur le genre et sur les modes de subjectivation sexuelle témoigne de son importance au moment du centenaire de sa naissance. Alors pour évoquer cette Beauvoir philosophe, j'ai invité Huguette Bouchardeau, qui vient de faire paraître Simone de Beauvoir, une biographie dans chez Flammarion, Ingrid Galster, qui vient de faire paraître Beauvoir dans tous ses états, chez Talandier, Madeleine Gobeil, qui a été très proche de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre, et qui avait réalisé un film documentaire magnifique qui s'appelle Un portrait croisé de Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, Michel Kael, qui est l'auteur de Simone de Beauvoir, philosophe au PUF, et Julia Kristeva. Julia Kristeva, vous êtes professeure à l'Université de Paris Diderot, directrice de l'Institut Roland Barthes. Vous organisez un grand colloque sur Simone de Beauvoir. Alors, j'ai envie de vous demander ce qui vous intéresse chez Simone de Beauvoir, parce que sur les campus, dans les universités, vous êtes sans doute une référence plus importante que Simone de Beauvoir. Vous êtes plus lue que Simone de Beauvoir dans l'histoire du féminisme, de la pensée aussi du genre. Vous avez aussi un peu, en différent par rapport à l'œuvre et à la pensée de Simone de Beauvoir. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui encore chez Simone de Beauvoir, Julia Kristeva?
Je ne sais pas si je suis plus lue que Simone de Beauvoir. J'espère que non. J'espère qu'elle est toujours lue et mieux que moi, parce que j'appartiens à une génération qui lui doit tout. Elle nous a appris la liberté de penser, avec elle, mais aussi contre elle. Et c'est ça que je voudrais faire entendre dans le colloque. À savoir qu'elle a ouvert une brèche qui, vous le venez de le dire, est philosophique, mais qui est aussi sociale, qui a engendré un mouvement militant, mais qui est aussi passée par l'écriture. Et les philosophes, et les sociologues, et les militantes, et les écrivaines. Et ce bouquet que j'aimerais faire entendre, d'abord parce que, pour moi, ce n'est pas seulement une révolution de pensée. Parce que c'est une révolution de pensée, c'est devenu une révolution sociale qui a changé la vie des femmes. Mais au-delà de cela, je pense qu'il s'agit d'une révolution anthropologique. Puisque en donnant les clés de la procréation aux mains des femmes, plaisir et droit de procréer, vous êtes libre d'avoir l'amour comme vous le voulez et de procréer quand vous le voulez. Elle a changé la condition humaine et aussi elle a changé le sens de la transcendance. La transcendance, c'est de pouvoir transcender la transcendance dans la liberté, à l'intérieur de la condition humaine. Alors toutes ces connotations complexes de son œuvre que nous allons évoquer aujourd'hui sont loin d'être réalisées dans les démocraties avancées, mais elles sont encore très loin d'être réalisées dans ce qu'on appelle le monde en voie de développement. Et le colloque que nous organisons rue des Cordeliers, le couvent des Cordeliers rue de l'école de médecine, s'adresse au monde entier. Nous allons avoir une assistance, une participation de spécialistes, mais pas seulement, de militants, de politologues, de politiciens, d'étudiants qui viennent de tous les pays du monde jusqu'en Chine. Et nous allons nous adresser aux femmes qui souffrent dans le monde entier, sous l'oppression d'un certain nombre d'intégrismes.
Alors, je disais dans cette introduction qu'on oublie effectivement le rôle philosophique de Beauvoir parce que souvent on l'associe à Sartre, au couple. Voilà. Est-ce qu'il faut aujourd'hui dissocier Sartre et Beauvoir? Est-ce qu'il faut penser Beauvoir sans Sartre pour faire droit à sa propre pensée. Madame Gobeil.
Oh, ce serait difficile à dire. Personnellement, j'ai une expérience vécue de cette rencontre et je ne les dissocie pas tellement. Dans leur pensée, oui, Simone de Beauvoir est philosophe à part entière. J'aime beaucoup le petit livre de Michel Kyle, hein, lorsqu'il dit ce qui est arrivé, ce qui va arriver. Bon, lorsqu'il nous donne tout cet espoir et nous fait nous apprend beaucoup de choses sur son apport philosophique. Mais évidemment, je les vois toujours ensemble.
Oui, mais alors vous les avez très bien connus tous les deux. Est-ce qu'il y avait une sorte de répartition des rôles, ou il y avait une complémentarité ou une identité? Est-ce que Sartre c'était Beauvoir et Beauvoir c'était Sartre? Ou bien est-ce que vraiment chacun avait son domaine? Est-ce qu'il y avait un domaine, par exemple, d'activité théorique qui était plus effectivement les femmes pour Beauvoir? Ou bien est-ce qu'il y avait un travail sur la notion, je ne sais pas moi, la notion de sujet, la notion de conscience? Est-ce qu'il y avait un qui lisait plutôt Hegel, Leibniz, par exemple Beauvoir, l'autre qui lisait plutôt Husserl? Est-ce qu'il y avait ce type de répartition?
Voilà. Je les ai connus comme deux êtres très différents. Je me souviens que lorsque j'ai rencontré Sartre pour la première fois pour une interview, Simone de Beauvoir m'avait dit « Attention, c'est Saint-Jean Bouche d'Or. Il va vous parler d'une manière très différente de la mienne. » Et en effet, nous parlions plutôt de philosophie, tandis qu'avec elle, c'était l'apport très très humain sur les amours, sur les livres, parce que nous partageons ensemble la passion de la lecture, surtout de la littérature anglaise, féminine. Et c'était, je ne crois pas qu'ils se sont répartis des rôles, je crois que Simone de Beauvoir s'est mis un peu en retrait. Je le dis comme je l'ai senti, n'est-ce pas ? Peut-être a-t-elle abandonné sa vocation de philosophe et peut-être a-t-elle voulu faire autre chose. Sartre lui-même, lorsqu'il m'a parlé d'elle, je suis la première personne à qui il a dit ce qu'était Simone de Beauvoir pour lui, à la fois comme femme et à la fois comme écrivain. Passons à l'écrivain, il a dit c'est une personne qui immédiatement engage l'autre. N'est-ce pas, dans tout ce qu'elle dit, immédiatement, l'autre est concerné. Parce qu'il y a une émotion qui passe. Disons que moi, je joue avec les idées, je discute. Mais notre travail est tout à fait différent.
Ingrid Galster.
Oui, pour la complémentarité, je crois effectivement qu'ils avaient deux tempéraments différents. C'est-à-dire que Sartre était effectivement le créateur et Beauvoir la force analytique qui était derrière. On a d'ailleurs des témoignages dans une lettre au moment où Sartre était prisonnier. Beauvoir dit à un moment donné « Ah, mais ça fait 7 mois que je ne vous ai pas vu et prochainement, j'aurai des théories toutes neuves que je décortiquerai morceau par morceau. » Donc, je crois vraiment que Sartre était celui qui mettait les idées sur la table et Beauvoir commençait à tout analyser.
D'accord, je sens que ça fait réagir un petit peu, ah cette bon répartition. Mais
c'est-à-dire non, je sais que ça fait
l'inventeur
pas aux féministes,
et donc l'analytique.
Oui. Ça plaît pas aux féministes parce que justement, un certain courant féministe beauvoirien veut effectivement inverser les rôles, comme quoi Beauvoir aurait eu une conscience aliénée de femme, qu'elle devait toujours donner le premier rôle à l'homme, puisque c'était comme ça. Mais je crois que Beauvoir a une appréciation d'elle-même qui était assez honnête, parce qu'elle disait aussi dans son autobiographie, je sais que ma facilité d'entrer dans un texte vient précisément de mon manque d'inventivité. Et pourquoi en douter ?
Oui. Huguette Bouchardot, alors, j'imagine Simone de Beauvoir vous intéresse à plus d'un titre. Vous-même, vous avez eu des grandes responsabilités politiques, vous avez été ministre, vous avez aussi incarné une sorte de volonté de révolution, on peut dire aussi.
Je suis philosophe à l'origine.
Vous êtes philosophe et puis vous intéressez aussi aux grandes figures de femmes. Ce n'est pas la première auxquelles vous consacrez une biographie, il y a eu Sand. Alors, pourquoi Beauvoir aujourd'hui, qu'est-ce qui reste encore de ce message, de ces luttes et de cette théorie féministe?
J'aime bien ce que vient de dire Ingrid Glaser, parce que je me souviens de ces passages de Simone de Beauvoir où, sortant de la Bibliothèque nationale, où elle est en train de travailler fortement sur Hegel et sans peur, au moment où elle était en train de travailler sur Hegel, en particulier pour en discuter avec Sartre plus tard. Elle sort de la Bibliothèque nationale et elle dit finalement, quand je vois le ciel au-dessus de moi, quand je vois la vie autour de moi, je trouve que c'est ça que je préfère. Ça n'est pas le monde un peu abstrait de la philosophie. Et c'est vrai que Simone de Beauvoir ne fait pas de la philosophie comme on en fait à l'université, par exemple. Quand elle s'est appliquée à des sujets qui sont des sujets qui ont été porteurs pour l'existentialisme à venir, qui seront l'un des germes de l'existentialisme à venir. Mais il me semble qu'elle est très, très intéressée par tout ce qui relie la philosophie à la vie. Et c'est ce qui fait qu'elle a une manière... Enfin, je la comprends tout à fait parce que, ayant fait de la philosophie, mais étant forcée au parcours universitaire philosophique, je trouve aussi qu'il faut que la philosophie réponde à quelques questions qui sont des questions sur la manière de vivre. Et c'est pourquoi Simone de Beauvoir nous intéresse aujourd'hui parce que elle a incarné une manière libre d'être femme, parce qu'elle l'a théorisée, cette manière libre d'être femme, parce qu'elle a fait la différence entre ce qui vient de la culture, ce qui vient de la nature, ce qui vient de, disons, du siècle au moment où on est en train de vivre. Et elle a été une femme philosophant sur les femmes et disant ce qu'était l'être femme dans le aujourd'hui. Et c'est pourquoi je trouve que c'est à la fois un objectif philosophique et un objectif politique, un objectif humain, tout simplement.
Oui. Michel Caille, dans ce que vient de dire Gadou Chardot, il y a une autre façon de faire la philosophie. Est-ce que ce n'est pas aussi lié à l'approche phénoménologique, c'est-à-dire, par exemple, dans le deuxième sexe, où elle décrit la manière d'être femme, mais elle est décrite en phénoménologue. En même temps, on est frappé de voir que, dans l'histoire de la philosophie, elle est très peu citée. En général, elle n'apparaît pas dans les manuels. Pourtant, il y a une approche. Alors, est-ce que ça tient? Parce qu'on l'associe à... Voilà, elle traite uniquement des questions de femmes, alors que, bon, ce qu'elle dit des femmes s'adresse bien sûr aussi aux hommes, c'est-à-dire la manière de s'identifier ou non à un rôle sexuel, ça ne concerne pas que les femmes. Comment penser aussi le rôle de, c'est pas forcément pour l'inscrire dans, académiquement dans l'histoire de la philosophie, mais comment penser l'apport de Beauvoir dans la philosophie, hein, vous qui avez écrit justement ce Beauvoir philosophe, Michel Caille.
Oui, en effet, je pense qu'il y a une spécificité quand même, c'est l'approche phénoménologique telle que l'existentialisme sartro-beauvoirien, moi je dis plutôt sartro-beauvoirien, l'interprète, ça me semblait... Et il y a au moins une caractéristique, c'est que ce sont deux auteurs qui pratiquent les genres littéraires, je dis littéraires au sens général, très divers. L'une et l'autre, bon, peu importe. Ça, c'est un point qui me semble décisif. Par ailleurs, je crois qu'il y a un apport... alors spécifique de Simone de Beauvoir. Alors par rapport au champ académique, faut bien voir que Sartre n'est pas mieux traité d'une certaine façon. Finalement, il est très peu... Moi j'ai le souvenir, le seul cours qui existait dans les années 60 à la Sorbonne, c'était Aron. Sur la critique de la raison dialectique, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, oui, c'est pour ça que je cite l'anecdote. Parce que... ouais. Donc je crois qu'il y a peut-être une certaine réticence académique vis-à-vis de l'existentialisme phénoménologique. Oui. Mais alors, je voudrais au moins donner 2-3 points sur lesquels il y a des apports spécifiques de Simone de Beauvoir.
Voilà.
Sur la question justement de la nature et de la culture. Je crois que ce qui est très intéressant, enfin moi ce à quoi j'étais très sensible, c'est que Beauvoir sort de cette dualité nature-culture. Et en fait, elle l'interroge. Parce qu'elle dit que finalement, si on reste dans la dualité nature-culture, eh bien, c'est pour qu'à un moment ou un autre, ceux qui sont dominés et celles qui sont dominées soient rejetés dans la nature.
On peut dire donc, que c'est une philosophie antinaturaliste.
Absolument. Et de mon point de vue, c'est pour ça que... Moi, je ne peux pas dire que je sois un spécialiste de Beauvoir, mais je lis Beauvoir parce qu'il me semble qu'elle enrichit la pensée et dans la perspective de ce que moi j'appelle un matérialisme antinaturaliste. Et ça, ce sont des promesses qui sont très, très grandes, qui sont en partie réalisées dans le deuxième sexe. Mais justement, ce qui est très intéressant, c'est que Beauvoir donne les moyens de la critiquer. Parce que le deuxième sexe, on le sait, ça s'est signalé par beaucoup d'études à juste titre, il y a des retombées, je dirais, naturalistes. Oui. Mais ce qui nous permet de repérer les retombées naturalistes, c'est Beauvoir elle-même.
Alors, vous avez dit trois points, alors, de tout deuxième.
Je disais non. Trois
bon,
points.
On peut rester déjà sur celui-là. C'est étonnant parce qu'en même temps, voilà, dans le deuxième sexe, elle s'attaque un peu au matérialisme historique, hein, au réductionnisme, etc. Julia Kristeva, alors justement, bon, antinaturalisme, on peut penser aussi à la négation d'une nature féminine. Comment vous entendez cela, vous, aujourd'hui?
Écoutez, moi, je voudrais juste revenir quand même un peu au débat antérieur. Est-ce qu'elle est philosophe? Je crois qu'il y a eu un grand bouleversement de la philosophie au XXe siècle qui s'est réalisé en France. Et la phénoménologie sartrienne, c'est-à-dire l'existentialisme, parfois dénigré, Michel Caille vient de le dire, était quand même à l'origine, d'une certaine manière, de ce bouleversement que d'autres ont pratiqué par la suite. Parce qu'ils ont montré, tous ces gens, différemment, Sartre et Beauvoir, qu'on pense par l'imaginaire, que l'imaginaire est une forme de pensée, d'où le roman. Et qu'on ne peut pas dissocier l'acte philosophique de l'acte politique et de l'acte imaginaire. Quand on dit situation, c'est ça que ça voulait dire. Et Beauvoir, avec sa sensibilité particulière, avec son émotion, avec cette espèce de fervente liberté qui l'anime et que Sartre salue. D'ailleurs, j'écoutais l'autre jour une bande, disait « Mais moi, je pose des questions et elle vibre avec les gens ». Donc, ce côté très spécifique de l'individu Beauvoir a incarné le mieux cette refonte de la philosophie avec l'imaginaire. Et on ne peut pas dissocier la philosophe de ce côté-là. D'ailleurs, juste un mot là-dessus encore. Le deuxième sexe, c'est en effet un pamphlet contre la nature féminine et pour le devenir femme dans l'histoire. Mais c'est fondé sur des éléments particuliers, c'est-à-dire des petits récits sur des narratèmes qui comprennent la Sulamite du Cantique des Cantiques, Théroigne de Méricourt, Sainte Thérèse d'Avila, Colette. Donc c'est une série d'existences individuelles. Si vous réfléchissez, de tous les mouvements libertaires du XXe siècle, le féminisme est le seul qui est fondé sur des cas individuels. Marx n'a pas fait l'histoire de l'ouvrier X, Y ou Z. Le tiers-monde ne s'est pas fondé sur l'histoire individuelle de tel ou tel individu. Beauvoir a libéré les femmes en donnant des exemples particuliers. Et c'est là-dessus que moi, j'ai dédié mon génie féminin à elle, parce qu'elle demande à chaque être féminin de devenir singulier, de se transcender. Et c'est une forme de philosophie qui est l'aboutissement des droits de l'homme. Oui. Mais c'est on peut passer à votre question. Oui. C'est un dépassement de la nature féminine en tenant compte de la spécificité de l'individu.
Oui, oui,
et
oui.
C'est quelque chose qui reste encore à creuser.
Oui. Je disais donc à Michel Caille, parce qu'il fait référence au matérialisme, dans le deuxième sexe, ça commence par une critique de la biologie ou du biologisme, hein, mais aussi du matérialisme historique, mais aussi de la psychanalyse. Et là, évidemment, Julia Kristeva, on se dit que là, ça a été aussi peut-être votre différent avec Simone de Beauvoir. Non,
mais écoutez, elle a une vision de la psychanalyse qui est double. Il faut dire que Sartre et Beauvoir ont été de ceux qui ont réhabilité la psychanalyse après la Deuxième Guerre mondiale. L'héroïne des mandarins, c'est quand même une psychanalyste.
Sartre et Flaubert.
Et Sartre et Flaubert. Donc, il y a ce souci de dire que la sexualité est fondamentale est quand même un message freudien. Ceci dit, quand elle est contre la psychanalyse, je pense qu'elle est contre une espèce de doxa psychanalytique qui réduit la complexité de la vie humaine à tel ou tel complexe, à l'Édipe, à l'analité, à la femme castrée, à des espèces de clichés qui ne sont utilisés que par une psychanalyse ringardisée, si vous permettez l'expression, et qui n'en a pas cours. Parce que moi, je pratique la psychanalyse comme une poétique, c'est-à-dire par un discours singulier où chaque être se révèle à sa liberté particulière. Donc ça, c'est très proche du message de
Madame Gobain.
Lorsqu'elle m'en parlait, nous différions sur ce sujet, car elle pensait que la psychanalyse rendait les gens normaux, entre guillemets, n'est-ce pas ? Et qu'elle allait convaincre les femmes d'accepter leur sort, comme on l'a vu souvent avec les Américaines. C'est ça qui lui faisait peur. Mais en même temps, il est intéressant de penser que dans son roman Les Mandarins, le personnage principal est une psychanalyste.
Dans son analyse de la domination, est-ce qu'elle reste en quelque sorte hegelienne dans son analyse de l'altérité est-ce qu'on peut dire que parce qu'elle a elle était grande lectrice de Hegel, Michel Cahill, Hugues Bouchardot. Dans son analyse du dominant à dominé, de la reconnaissance.
Déjà dans l'invité, il y a cette phrase que chaque conscience veut la mort de l'autre.
Ça, voilà. Donc,
Hegel. Oui, excusez-moi.
Non, je vous en prie. Mais en même temps, je pense qu'elle rompt avec l'idée d'une dialectique, parce que ça rentrerait sous la catégorie de ce qu'elle appelle le progressisme. Et d'une certaine façon, le progressisme, c'est une manière de se débarrasser de sa liberté, puisque les choses étant assurées...
Bien sûr. Est-ce qu'on peut rappeler quand même un peu les textes qu'on dit toujours le deuxième sexe, mais il y a d'autres textes de Simone de Beauvoir qui relèvent aussi de la philosophie.
Oui, il y a Alors, Pour une morale de l'ambiguïté, il y a Pyrrhus et Cinéas, et puis il y a...
Le
Sade, qui me semble un texte important.
Faut-il brûler Sade
Les Sades, et puis il y a aussi sagesse et sagesse et illusion, existentialisme, sagesse des nations, qui va être édité justement par Nîmes.
Alors
que ça, c'est tout un ensemble, de textes philosophiques où des choses. Il y a à la fois des concepts, il y a des inventions conceptuelles, et puis il y a quelque chose qui se dessine comme une pensée et qui va permettre en fait le deuxième sexe.
Oui, est-ce qu'il y a l'unité de ces textes ? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qu'il faut lire plus que d'autres ? Est-ce que le deuxième sexe, en quelque sorte, cache les autres, l'autre travail de Simone de Beauvoir ? Est-ce que vous lisez, ces autres textes pour une morale dans l'ambiguïté, ou faut-il brûler ça ? Huguette Bouchardot.
Moi, je m'étais forcée d'analyser un peu Pyrrhus et Cinéas.
Oui.
C'est un excellent petit ouvrage de... clin d'œil, quoi, de petites scènes presque sur des thèmes. Et j'avais trouvé que ce Pyrrhus et Cinéas, c'était. J'ai beaucoup enseigné la philosophie, et donc j'avais trouvé que c'était un excellent petit manuel. De philosophie. Je ne veux pas reprendre la formule de Brochier à propos de Camus, mais c'était vraiment...
Faut la rappeler, philosophe pour terminale.
Philosophe pour classe terminale. Mais c'était tout à fait un ensemble de réflexions très, très fondées sur des point de départ concret et illustrant telle ou telle notion, démolissant telle ou telle... voilà. Alors, Pyrrhus et Cinéas, je trouve que c'est... Moi, quand je dis philosophe pour classe terminale, ça me... c'est pas du tout péjoratif, à l'inverse de ce que disait Brochier, parce que je crois que c'est vraiment, au contraire, une excellente initiation à la manière de penser et particulièrement la liberté. Or, quand vous posiez la question tout à l'heure de l'existentialisme face à la psychanalyse, moi je me souviens dans les débuts, je crois, de L'être et le néant, de cette mise en cause de la psychanalyse essentiellement parce qu'elle pensait faire reposer un certain nombre d'actes sur une absence de liberté à travers la domination de l'inconscient. C'est tout à fait rapide peut-être, mais C'est vraiment, ça fait partie, je crois, de la pensée.
Mais
de,
dans votre présentation, Huguette Bouchardeau, est-ce que vous êtes en train donc, de reconduire effectivement cette répartition qui a été évoquée tout à l'heure entre un Sartre qui invente les concepts, qui manipule les théories, et puis une Beauvoir donc, qui est plus, alors je dirais, là tout d'un coup, je provoque un peu, mais un peu plus scolaire à ce moment-là, plus, qui est dans l'analyse des concepts,
moi,
qui les travaille.
Que... Sartre n'invente pas les concepts pour Beauvoir qui ensuite les retraduirait. Il pense différemment. Sartre est quelqu'un qui, elle le disait, et tout le monde l'a toujours dit, il est toujours en train de penser, il n'arrive pas à ne pas conceptualiser sans cesse ce qu'il pense. Et Beauvoir, elle voulait d'abord être un écrivain. Et c'est d'abord comme écrivain qu'elle se réalise. Et ce sont des terrains un peu différents.
Oui, elle dit qu'elle ne se sent pas assez créative en philosophie. Il y a cette phrase, mais elle devient philosophe par l'imaginaire, voilà. Tout en étant aussi très fécondante pour Sartre. On a montré comment l'idée même d'engagement serait peut-être due à elle, après une discussion avec Bost, ce qui se passe pendant la guerre, le besoin de s'engager avec ces gens qui souffrent sous l'occupation et au moment de sur le front, etc. Donc elle n'est pas quelqu'un qui applique les idées de Sartre par une expérience vécue, par une implication dans la vie, elle la pense, elle la dit en imaginaire et elle la pense également en philosophe, mais autrement que Sartre. Je crois qu'il faut sortir de cette espèce de dualisme qui est plus homme et qui est plus femme, qui est plus maître à penser et qui est l'esclave du grand homme.
Bien sûr. Dans le deuxième siècle, c'est la vision de l'autre parfaite, qui est tellement intéressante.
Oui, oui. Alors, je reviens un peu au deuxième sexe et je voudrais vous faire entendre un extrait donc où elle parle de la réception, ce qu'a été l'événement en 49, l'événement de cette publication.
Bon, j'ai vu avec étonnement quand même ce que ça m'a révélé. Ça a été l'animosité de certains hommes que je croyais être tout à fait proche de moi, par exemple comme Camus, et qui a été absolument irrité par le livre en disant que j'avais... je m'étais moqué, enfin que j'avais caricaturé le mal français, etc., etc. Il y en a eu d'autres aussi qui ont manifesté une mauvaise humeur extraordinaire. Alors ça m'a beaucoup surprise parce que je croyais que cette espèce d'égalité des hommes et des femmes que j'avais dans mon milieu très très proche, avec Sartre, avec Merleau-Ponty, avec certains autres, je pensais que c'était une chose acquise.
C'était pas du tout acquis, manifestement. Ingrid Galster, dans votre livre Beauvoir dans tous ses états, vous avez un chapitre sur la réception. Vous donnez un peu le dossier aussi. C'est assez effrayant. Évidemment, on est à une autre époque, mais malgré tout, la violence, on évoquait donc la violence de Camus, la violence de Mauriac, peut-être la pire. Est-ce que vous pourriez quand même évoquer aussi et les termes dans lesquels ça a été reçu, Ingrid Galster?
C'est un peu dommage qu'on se soit toujours tenu à l'autobiographie de Beauvoir, on la répète alors que les archives sont là. Le vrai scandale, c'était en 49, la prépublication d'un chapitre du deuxième tome, L'initiation sexuelle de la femme, où à partir de la deuxième page, en tête des temps modernes, Beauvoir utilise des termes comme spasme clitoridien, orgasme mâle et qu'en sais-je. Et cette intrusion de sexualité dans le discours public, ça c'était le vrai scandale. Évidemment, les gens n'étaient pas habitués non plus à entendre parler de la femme comme construction culturelle, etc. Mais je crois que ça passait plutôt au deuxième plan. Le vrai scandale, c'était qu'une femme parlait ouvertement de sexualité, ce que même les hommes ne faisaient pas à l'époque.
Oui. Alors, est-ce que vous pourriez rappeler quand même quelques réactions, les réactions de Mauriac, par exemple?
Oui, par exemple, Mauriac, il a ouvert une enquête dans le Figaro littéraire et il a posé la question de savoir si, moi je cite de mémoire, si l'intrusion de la sexualité dans la littérature ne risquait pas de faire perdre la nation. Il y avait beaucoup de jeunes intellectuels qui ont répondu et beaucoup de jeunes ne trouvaient ça pas tellement scandaleux. dont certains qui sont devenus assez célèbres après comme Vidal Naquet, François Nourricier et d'autres. Mais ceci dit, la presse de droite et aussi d'extrême gauche, étonnamment, était complètement contre parce que même dans le communisme, il y avait un discours maternaliste.
Alors, Ingrid Gasser, j'aimerais bien que vous l'évoquiez parce que c'est un peu une surprise aussi, enfin aujourd'hui, de voir que du côté du PC, du côté de l'aide française, etc., enfin, du côté de. Et je crois que là, si vous pourrez citer des noms, c'est surprenant de ceux qui ont considéré que finalement, ces problèmes de femmes, ça n'intéressait pas les ouvriers, c'était des problèmes petits bourgeois, que les ouvrières habillées en cour se moquaient bien de la question de la domination masculine. Ça c'est quand même très, très important parce que. Il faut reconnaître aussi que c'est quelque chose qui a couru assez longtemps, c'est-à-dire jusqu'au même moment des luttes d'extrême-gauche, même au moment du gauchisme, quand même le féminisme est toujours apparu aussi comme quelque chose, une lutte un peu bourgeoise, non, Huguette Bouchardot?
Oui, absolument. Et ça a été justement la nouveauté de, je dirais pas de 68, mais de l'après 68, d'avoir mis en avant un certain nombre de luttes, de combats, pour la liberté et qui se différenciait de la stricte lutte des classes, mais ça faisait partie vraiment de tout le débat des années du début des années de la fin des années 60, du début des années 70. Le féminisme est-il une lutte des classes, la lutte des classes, enfin, c'était vraiment un c'était vraiment de ces débats qu'on avait sans cesse. Et en politique, à l'époque, il a été bien difficile de faire admettre que les combats politiques des femmes, par exemple, comptaient autant, ou même si c'était sur un autre plan, comptaient autant que d'autres combats. Je l'ai vu dans un groupe comme le PSU, qui pourtant n'a pas mégoté trop son soutien au mouvement des femmes. Mais il fallait quand même convaincre un certain nombre de gens. Et c'est vrai que pendant ces années-là, il y avait quand même l'idée, qu'on retrouve d'ailleurs souvent évoqué par Beauvoir, que quand même, lorsque les femmes accéderaient au travail, lorsqu'elles auraient une égalité sur le plan économique, qu'elles auraient leur indépendance sur le plan économique, eh ben, on aurait résolu beaucoup de choses. Il faut quand même relire quelques pages sur la Chine de Simone de Beauvoir, où elle découvre qu'en Chine, les femmes, ça y est, c'est quand même en grande partie arrivé, quoi, parce que la liberté, parce que justement, il y a eu la révolution chinoise.
Julia Kristeva, ce problème. Non, voyage
je
en Chine.
Que là, on touche un problème très important. Je pense que la division gauche-droite, qui a sa légitimité encore, a été quand même mise en cause par toute cette révolution que Sartre et Beauvoir ont apportée dans la pensée française. Parce qu'il n'y a pas que la détermination économique de l'être humain. Il y a cette détermination sexuelle qui fait que nous sommes hommes et femmes, et qu'à partir de là, la libido, le désir, qui sont une espèce de porteuses de la pensée et de la liberté sont à prendre en compte. Et à partir de là, on voit que la société se divise entre conformistes et pas conformistes. Et on trouve des conformistes dans la gauche comme dans la droite. Et c'est quelque chose qui continue aujourd'hui. Quand on voit dans la société mondiale le retour des fondamentalistes, des créationnistes, de tous ces gens qui sont un barrage permanent à la considération de la liberté humaine, non pas comme simplement le droit à avoir plus de paiements et de ne pas être sous-alimenté, etc., mais le droit d'exprimer ses désirs. C'est quelque chose d'épocal et on n'a pas encore pris la mesure de cela. Donc la division droite-gauche est à ce moment-là mise en difficulté. Parce qu'on a eu, et Huguette vient de le dire, beaucoup de gens de gauche qui se sont opposés, qui continuent même d'une certaine manière à ridiculiser sous des airs condescendants toute cette révolution dont pâtit une partie justement des libertés féminines pour lesquelles nous essayons de nous battre.
J'étais d'ailleurs très étonné de retrouver le nom de Jeannette Colombelle, par exemple, dans un article. Dominique de Santi avait essayé d'éviter le compte-rendu dans La Nouvelle Critique par des marxistes très dogmatiques. Et Jeannette Colombelle fait un texte quand même vraiment assez terrible.
Il faut dire quand même qu'elle est revenue depuis.
Oui, heureusement. Heureusement. Madeleine Cobaye.
Vous parliez de la réception du deuxième sexe. Ingrid de Galster a bien compulsé les archives. Peut-être n'est-elle pas assez violente. Vous savez, vous vous souvenez que dans Le siècle de Sartre, Bernard-Henri Lévy, il explique très bien ce qu'a été la gloire de Sartre et naturellement celle de Simone de Beauvoir. Et cela a aussi suscité une rage énorme contre les malveillants, par les malveillants. Et on s'en est pris beaucoup à la figure de Simone de Beauvoir, en lui donnant des surnoms atroces. Sartre était le grand philosophe, le personnage, n'est-ce pas? On s'inclinait devant cela, mais on l'a beaucoup insulté.
Oui, mais la grande
Sartreuse. Moi-même, j'ai vécu ça avec elle, dans des moments, dans des restaurants, où elle était prise à partie.
Oui. Michel Caine.
Oui, je voulais revenir justement sur la question du mouvement des femmes, parce qu'il est né quand même d'une critique du gauchisme, c'est-à-dire que, et d'une critique, on va dire, entre guillemets, radicale. Et donc ça, et ça, Simone de Beauvoir va beaucoup apprendre de cela. C'est-à-dire que ça, c'est un aspect extrêmement intéressant, c'est qu'elle met en place avec le deuxième sexe toute une problématique et elle-même, elle est capable politiquement de profiter de l'apport du mouvement social finalement le plus inventif du XXe siècle. Et ce qui est très intéressant sur le plan philosophique, c'est qu'il y a un dialogue avec Sartre. Et on voit Simone de Beauvoir dire qu'il faut en finir, parce que dans le fond, c'était théorisé comme ça, avec le front principal et le front secondaire. Et Sartre dit non, il faut maintenir au centre de l'activité politique la lutte des classes. Et Beauvoir dit non, ça n'est plus, et ça rejoint ce que vous disiez, ça il faut le déplacer parce que ça n'est plus justement le point central de l'intervention politique.
Oui. On va entendre un extrait où Simone de Beauvoir donc évoque avec Sartre progressivement son engagement féministe à partir donc d'une réflexion théorique.
Je sentais bien que les garçons n'avaient plus de possibilités. Mais enfin, du fait que j'avais eu ensuite les possibilités de faire des études aussi poussées qu'eux et que j'y avais réussi aussi bien, alors ça avait effacé complètement ça. Mais je voyais les autres femmes et je voyais tous les couples que je connaissais. Je voyais que le rôle important, positif joué par les hommes et que la femme était vraiment dans leur ombre. Et puis j'ai commencé alors à lire beaucoup de choses que les hommes avaient écrites sur les femmes. Et j'ai vu qu'elles étaient toujours traitées d'être relatives, d'être secondaires, etc., etc. Et alors là, en effet, j'ai vraiment pris conscience de la condition féminine.
Non, mais ce qui est curieux, simplement, c'est que vous avez commencé comme une femme non féministe.
Jean-Paul Sartre.
Une femme de ce point de vue quelconque, qui veut savoir ce que c'est d'être femme. Et en écrivant le livre, vous êtes devenue féministe. Vous avez vu vos ennemis, vous les avez attaqués. Et vous avez bien précisé ce qu'était qu'être femme.
Oui, mais
c'est
je suis restée sur un plan théorique. Et maintenant, aux yeux des militantes, ces livres peuvent avoir une certaine valeur parce qu'elles n'ont pas tellement de théoriciennes. Mais moi-même, je suis restée simplement sur le plan théorique. Et je n'ai pas fait un engagement féministe comme je l'ai fait ces dernières années.
Ben, c'est normal.
Oui, c'est normal.
C'est normal.
D'abord, il n'y avait pas de mouvement féministe à ce moment-là.
Oui. Et puis, vous êtes devenue en écrivant le livre. C'est la meilleure manière.
Je suis devenue surtout après que le livre ait existé pour d'autres femmes.
Alors, venons-en un petit peu justement à l'engagement politique aussi. Vous disiez voilà, que Julia Kristeva avec Simone de Beauvoir, il y avait à la fois la philosophie, la politique, l'imaginaire. Hein, ces trois, en quelque sorte, dimensions qui révolutionnent la philosophie. Hein, et avec Sartre et avec Beauvoir, il y a une autre manière de penser et de théoriser. Hein, voilà. Alors, l'aspect politique, là aussi, on est frappé, excusez-moi de revenir encore à cette comparaison, peut-être effectivement, il faut en finir définitivement infiniment avec Sartre-Beauvoir, mais vous avez parlé du sartro-beauvoirisme. Mais voilà, est-ce qu'ils sont toujours sur la ligne politique, c'est-à-dire bon, le soutien au communisme dans les années 50, ensuite la rupture, donc le soutien à la cause du peuple, etc. Donc est-ce que c'est toujours, ils sont toujours sur la même ligne, ou bien est-ce qu'il y a de temps en temps des différents? Voilà, j'aime jamais vous entendre là-dessus. Et quel était le rôle de l'engagement? On sait bien que pour Sartre, l'engagement, ça a été juste après la guerre, aussi une manière aussi de prendre le territoire. Hein, et puis, alors que les années précédentes avaient été soit dans l'indifférence, bon, pour ne pas dire autre chose, et brusquement, il y a une volonté de prendre position dans le champ intellectuel, social. Donc, est-ce que pour Simone de Beauvoir, ça a été aussi le cas et sur les mêmes lignes politiques que Sartre? Mais et là, qui a eu l'initiative? Qui pourrait me répondre à ça? Madame Cobaye?
Eh bien, je me souviens que Sartre m'a dit justement, il n'y a qu'un domaine où elle me laisse froid, c'est la politique. Pourtant, elle s'intéresse à la politique, elle est dans l'engagement politique, mais elle n'aime pas la cuisine politique.
Ouais. Elle le suit partout, hein, pourtant.
En effet.
Julia Kristeva.
Je pense que, en effet, il y a cette cohérence du couple quelque part, malgré les différences. Ils ont réussi, malgré les amours contingents, malgré les amours profonds. Je pense que l'histoire à Nelson Algren était très importante pour le deuxième siècle et pour l'ensemble.
Oui, on peut rappeler réussi, hein, quand même Nelson Algren, qui est le grand amour américain de Simone de Beauvoir.
Tout à fait. On va y revenir tout à l'heure pour rester dans votre sujet à ce moment-là de la discussion. Tout ça a fait quand même qu'ils ont gardé quelque chose de très difficile de nos jours où chacun des deux sexes se libère, à savoir le couple qui garde une cohérence et qui devient un espace de pensée. Mais un espace de pensée, ça veut dire de contradictions, pas toujours d'accord, avec des différences. On vient de donner certains d'entre elles. Ceci dit, elle a en effet suivi l'histoire communiste, peut-être avec plus de bémol, l'histoire de la décolonisation, évidemment. Mais du moment où elle est devenue féministe, du moment où le mouvement féministe mondial s'est emparé d'elle, elle a pris une nouvelle voie. Moi, je me souviens très bien du manifeste qui accompagnait la loi Veil sur l'avortement, etc. Donc il y a une nouvelle action politique qui lui a été tout à fait spécifique et qui nous a rendus, nous, capables de vivre autrement. Mais ce qui me frappe surtout, c'est le fait que tout au long de cette différence avec Sartre et de cette cohérence en même temps, elle a insisté sur l'individu. Et on parlait tout à l'heure de pour une morale de l'ambiguïté avec Huguette Bouchardot. Je reviens sur une phrase que je voudrais citer parce que ça me paraît indiquer la spécificité de l'engagement politique de Beauvoir. Ça reste toujours le souci du singulier. Elle dit ceci, « La réalité singulière de nos projets et de nous-mêmes. La vie humaine retrouve dans certains cas un caractère sacré, le sens de la dignité de chaque homme pris un à un. » C'est ce souci de la singularisation du politique. Il faut encore rappeler que la fin suprême que l'homme doit viser, c'est la liberté, seule capable de fonder la valeur en toute fin, en singulier. La liberté ne sera jamais donnée, mais toujours à conquérir singulièrement. Donc c'est ce souci qui passe forcément par le roman et par la passion amoureuse aussi, qui la différencie de toute réduction que nous voulons faire, y compris aujourd'hui dans ces tables rondes qui est malgré tout plus libre, mais malgré tout avec une espèce de sceau académique, nous voulons les caser dans tel ou tel courant de la philosophie.
On ne peut pas.
Cet éclatement par l'insistance sur la liberté du singulier qui finalement le fait un mot des droits de l'homme.
Oui, bien sûr. Alors, je reviens quand même à ce qu'a été l'engagement politique de la après-guerre. Pour Sartre, on sait très bien qu'il dit, voilà, l'expérience de l'enfermement, l'emprisonnement en Allemagne, etc., de la prise de conscience du collectif, il dit, voilà, ça a coupé ma vie en deux. Hein. Est-ce que pour Beauvoir, c'est la même chose, mais il ne semble pas. Ingrid Gelster, vous évoquez quand même un moment un petit peu délicat aussi dans la vie de Beauvoir, qui est, au moment de l'occupation, sinon une indifférence, mais aussi son travail à Radio Vichy. Donc le fait que, pour elle, il n'y a pas eu cette rupture, comme pour Sartre, voilà, de dire, voilà, brusquement, je sens ce que c'est que l'oppression, ce que c'est que considérer l'autre homme comme un moins que rien, et donc la nécessité tout d'un coup de s'engager pour tous. Là, pour le coup, le passage, la conversion à la politique n'a pas joué de la même façon.
Mais je ne sais pas si ça vaut pour Sartre. Oui. Pour moi, c'est encore suivre une doxa qu'a établie l'autobiographie de Simone de Beauvoir. Sartre a découvert au camp des prisonniers l'historicité en lisant Heidegger, et ça tombait juste au bon moment pour renouveler sa philosophie. Donc je crois que c'était surtout pour s'innover philosophiquement qu'ils ont intégré l'histoire dans leur pensée. Maintenant, pour Beauvoir et la radio de Vichy, c'est beaucoup plus complexe. Et là, je reviens sur ce que disait Julia Kristeva tout à l'heure. Ils ont fait introduire la psychanalyse en France. Beauvoir donnait des leçons de psychanalyse dans son enseignement au lycée. Et c'était une des raisons pour laquelle on l'a licencié, on l'a révoqué, parce que c'était une épuration de Vichy. Ce n'était pas tellement l'excitation ou l'incitation de mineurs à la débauche qui n'a jamais été prouvée, était le motif, mais c'était son enseignement qui n'était pas jugé conforme à travail, famille, patrie, les nouvelles valeurs de Vichy qui remplaçaient la République, si vous voulez. Alors, elle a donc été licenciée, révoquée. Il fallait qu'elle gagne sa vie et qu'elle mange quand même. Et c'est donc Sartre qui lui a procuré ce travail à Radio Vichy, qui n'est pas à confondre avec Radio Paris oui. Comme le fait Dead Robert dans son autobiographie, qui est vraiment à regarder avec beaucoup de précaution. Radio Paris, c'était les Allemands, c'était la vraie collaboration, alors que à Radio Vichy, vous aviez surtout des émissions culturelles.
Oui. Il est vrai. Mais aussi moment, à la fin, quand même, des gens qui parlent sur Radio Vichy, qui sont quand même des.
Non,
des,
tout à fait. Alors, à partir de janvier 1944, il y avait Philippe Henriot, le Goebbels français qui parlait deux fois par jour. Bon, là, on aurait espéré que Beauvoir retire ses émissions, mais elle ne l'a pas fait.
Michel Caine.
Oui, sur la question philosophie et politique, sur le plan théorique, pas historique. Oui. Et il est clair qu'il n'y a pas de conclusion immédiate d'une philosophie à telle politique. Bon. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que Sartre, philosophiquement, est très critique vis-à-vis du volontarisme. Et il est clair que son engagement politique va au contraire se manifester comme essentiellement volontariste. Alors que je suis très sensible à ce que vous disiez sur la singularité, parce que précisément Beauvoir va échapper dans son engagement politique à cette dimension volontariste, parce que précisément elle met l'accent sur la singularité. Et la réception du deuxième sexe, si on en croit les témoignages des lectrices, toutes disent, mais voilà, le deuxième sexe nous a parlé directement. C'est-à-dire, il y a la formule de Michel Ledeuf qui dit la lecture du deuxième sexe, c'est le mouvement d'avant le mouvement. C'est-à-dire que là, c'est singulièrement que, en effet, les lectrices du deuxième sexe découvrent leur transcendance.
Je voudrais maintenant qu'on aborde Beauvoir aujourd'hui et vous faire entendre déjà une différence de Beauvoir à l'égard d'autres théories féministes. Et là, on va revenir à ce qu'on appelle aussi quelquefois l'égalitarisme du féminisme de Beauvoir.
Je crois qu'en effet, ça y a vraiment une grande division dans le féminisme d'aujourd'hui, parce qu'il y a un grand nombre de femmes qui sont comme moi, c'est-à-dire qui veulent faire de la femme un être humain femelle, et puis c'est tout. Sans que ça implique des différences profondes de langage ou de perception ou de vision du monde. Et il y en a certaines qui revendiquent au contraire les différences. Et là, je trouve que c'est très dangereux parce que ça amène à, en somme, revendiquer une nature féminine et faire le jeu, finalement, des hommes qui misent sur l'altérité.
Alors, là, on est au cœur aussi du débat. D'un débat qui a eu lieu, et j'ai l'impression qu'il est renouvelé, parce qu'il y a eu un moment donné vous allez me dire si je me trompe, mais un féminisme de la différence qui a été très critique par rapport à Beauvoir. Et peut-être qu'aujourd'hui, on est à un autre stade, je ne sais pas. Julia Kristeva.
Mais écoutez, moi, je passe dans la critique féministe américaine pour quelqu'un qui serait différentialiste. Et je pense que je le suis, mais ça ne me met pas du tout en désaccord avec Beauvoir. Je crois qu'il y a une continuité. Pourquoi ? Parce que Beauvoir voulait une universalité selon laquelle il y a des égalités fraternelles entre l'homme et la femme au plan politique, économique, social. Et je pense qu'elle a raison, et c'est pour ça que nous battons pour la parité, par exemple. Ce qui s'est fait après elle, et grâce à elle, c'est que les femmes ont compris leur complexité. Depuis les années 50, si vous lisez la littérature féminine, qu'elle soit philosophique ou tout simplement littérature imaginaire, la femme a découvert qu'elle était amante, qu'elle était mère, qu'elle était femme au travail, qu'elle était peut-être désastreusement frigide ou brûlamment jouissive, qu'elle avait des soucis avec ses enfants ou qu'elle n'en avait pas, qu'elle était exploitée au travail ou qu'elle voulait s'affirmer. Mais toutes ces complexités font que les femmes cherchent en quoi elles diffèrent des hommes et en quoi elles apportent quelque chose de nouveau dans la civilisation. Ce qui ne veut pas dire que c'est mieux ni moins bien. Oui. Ce n'est pas une hiérarchie, mais c'est cet enrichissement de l'universel oui. qui me paraît intéressant.
Mais la formule « on ne naît pas le femme, on le devient », est-ce qu'elle suppose finalement qu'il faut le devenir ou au contraire, il ne faut pas devenir femme, c'est-à-dire il faut devenir tout simplement quelqu'un qui peut avoir tel ou tel type de subjectivation sans forcément entrer dans la programmation des rôles comme, par exemple, le rôle maternel ou le rôle de femme au foyer, etc. C'est-à-dire, véritablement, c'est la porte ouverte à une égalité totale ou bien à une singularisation pour dire, voilà, nous marquons notre différence. Aujourd'hui, on parle de déconstruction du genre, par exemple, avec Judy Butler, où finalement, il faut revenir sur ces distinctions sexe, genre, ça, où il ne faut plus affirmer un genre par rapport à un autre. Alors, où est-ce qu'on en est? Et par rapport à cette phrase de Beauvoir, est-ce qu'elle est encore d'actualité et dans quel sens?
On n'en est pas femme, moi, je dis, je l'interprète de la manière suivante. On est femme, parce que les avancées de la biologie montrent qu'il y a quand même des déterminations qui sont effectives. Mais... ce « on », c'est la biologie. Et ce que Beauvoir a apporté, c'est de débiologiser la féminité. Je deviens une femme. On est femme, on, impersonnel. Mais dès que je suis sujet, je me construis de la manière différente. Et la nouveauté, je crois, du 20e, fin du 20e et du 20e siècle, c'est que chaque sujet qui se transcende invente sa sexualité. D'où le gender studies, etc. Je suis bisexuelle, psychique, je suis créative parce que je peux devenir identifiée aux fleurs, aux chats, aux hommes, aux arbres, comme le fait Colette. C'est cette pluralité de la sexualité qui échappe à la dichotomie sexuelle. Ceci dit, ça c'est ma première réponse. On est femme, mais je le deviens. Et là, Beauvoir était quand même précurseur, même si elle n'est pas allée au bout de sa conception, et même si à l'époque, elle devait se battre contre la récupération maternaliste de la féminité. Je voulais simplement terminer sur ce sujet en disant que ce débat, quelque moderne qu'il paraisse, est quand même ancestral. Et Hannah Arendt montrait que ça remonte à la Bible. Jésus, disait-elle, était un homme révolutionnaire en disant « Dieu les a créés hommes et femmes ». Donc, différence. Saint Paul, qui était un homme beaucoup plus de la salvation, disait qu'il n'y a ni homme ni femme, ni juif ni chrétien, ni grec ni chrétien. Ça. Donc, tout ça est peut-être aujourd'hui dépassé. C'est la singularité qui compte et elle est dans l'invention du genre.
Huguette Bouchardeau, est-ce qu'on est dans une perspective à nouveau antinaturaliste avec Beauvoir après une période du féminisme qui a été donc à travers le différentialisme, l'affirmation de la différence de la femme qui a été peut-être à nouveau naturaliste?
Moi, je souscrirais tout à fait au discours que vient de tenir Julia Kristeva parce que je crois que ce qui est important dans l'égalité, dans le fait de dire que une femme, c'est d'abord une personne humaine de sexe femelle. Bon, mais dire, se sentir quand on est une femme, être d'abord une personne, et puis, bon, C'est vrai qu'il y a aussi tous les déterminants du sexe. Mais ça, c'est d'abord le fondement, l'égalité des droits. Et dans le féminisme tel qu'il se vit, il y a la lutte pour l'égalité des droits. Et puis, ensuite, je crois qu'il faut simplement essayer de pister à la suite de Simone de Beauvoir, ou quelquefois en réaction contre elle, mais il faut essayer de dénicher tout ce qui risque justement d'être une atteinte à la liberté dans les définitions données des femmes, dans les différences qu'on aperçoit entre hommes et femmes. Il faut dénicher tout ce qui risque d'être piège, et puis, lorsqu'on a déniché les pièges, essayer de ne pas y tomber.
Madame Gobeil ?
Oui, une dimension dont nous n'avons pas parlé et qui me semble primordiale dans l'œuvre de Simone de Beauvoir pour l'égalité, pour la liberté, c'est la dimension travail. Travail chez les femmes, indépendance économique, sur laquelle elle a tant insisté et qui est si difficile, je pense, surtout dans les pays en développement. Je pense qu'il faut ne jamais oublier cela. Oui, la personne humaine, mais par le travail, oui. Le dépassement.
Oui. C'est même toujours vrai dans la situation actuelle, puisque le taux de chômage chez les femmes est plus élevé que chez les hommes. Le travail partiel non choisi est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Enfin, je veux dire, y compris dans nos sociétés. Est-ce que je peux dire un mot? On a le temps.
Rapidement.
Je pense que Beauvoir est fondamentalement antidifférentialiste, parce que tout différentialisme appelle à un moment ou à un autre le naturalisme. Et ça, c'est quand même sa position fondamentale.
Selon elle.
Alors, c'est vrai que, je dirais, une différence peut toujours en cacher une autre. Finalement, la seule différence valable, légitime à ce moment-là, et qui maintient l'antinaturalisme, c'est de reconnaître que, en effet, nous sommes des êtres singuliers.
Oui, mais alors malgré tout, par rapport à la détermination...
Transcender la transcendance en permanence, c'est la liberté. Donc ça crée des individus singuliers.
Mais Julia Kristeva, vous évoquez aussi les déterminations naturelles qui fait que la petite différence et ses grandes conséquences. Hein, voilà. Comment penser cela? Aujourd'hui, on a quand même un retour du biologisme, non? C'est-à-dire une volonté de toujours marquer la détermination génétique, les neurosciences aussi. Dans leur utilisation, quelquefois, veulent à tout prix marquer qu'il y a des répartitions dans le cerveau qui sont plutôt féminines ou plutôt masculines, etc. Est-ce que, justement, Simone de Beauvoir n'est pas un outil aussi pour contrer toutes les mythologies qui viennent se greffer sur ces déterminations physiques ou génétiques auxquelles on accorde aujourd'hui de plus en plus d'importance?
Mais écoutez, moi je suis bien placée pour répondre à cette question parce que je suis de ces psychanalystes qui n'ignorent pas ces avancées de la biologie. Je ne pense pas qu'il faille se fermer les yeux non plus et les oreilles devant cela, mais qu'on essaye aussi de les combattre et de dire qu'il n'y a pas que ça et que l'être humain qui hérite de ces déterminations est capable justement de les transcender. Et nous sommes là pour pouvoir aller à l'encontre de ces pièges, comme vous disiez, parce que ça peut être une détermination qui enferme, comme si c'était une détermination réellement reconnaissable, et la Terre tourne et la biologie existe, ce sont des vérités scientifiques, mais à partir de là, on peut aussi aller à l'encontre et créer l'individu pensant à partir de sa capacité de transformer ces déterminations.
Michel Caille.
Je pense juste une petite remarque. Je pense, sous la réserve de toute mon ignorance, c'est qu'il me semble que la biologie va dans un sens elle-même, la science biologique va dans un sens antidéterministe. C'est-à-dire que la référence au biologique ne signifie pas une espèce de détermination en dernière instance.
Certains biologistes vont même dans ce sens. On va rencontrer bientôt un biologiste et un neurologue pour parler de ça. C'est quelque chose qui soulève des questions de Beauvoir et au-delà.
Alors, Huguette Bouchardeau, Simone de Beauvoir garde sa force subversive aujourd'hui?
Oui, à la suite de ce qui vient d'être dit, il faut simplement se méfier, je crois, du retournement, c'est-à-dire du fait d'ériger le fait d'être femme en supériorité ou en désir de reconnaissance absolue. On le voit beaucoup en politique. Je n'ai jamais été persuadée qu'une femme en politique soit meilleure qu'un homme. Je pense qu'il y a une sorte de retournement des choses qui fait qu'aujourd'hui, on greffe sur un discours de la différence une sorte de valorisation extrême qui n'a aucun sens.
Et en même temps, nous n'avons pas parlé de l'image de la femme aujourd'hui, qui est plutôt dégradée.
Bon.
Pas tout Julia à fait, parce qu'il y a, eu pour la première fois des femmes qui se présentent à la présidence de la République française ou américaine, donc c'est pas tout à fait dégradé, même s'il y a eu beaucoup d'exagération, aussi bien dans le sens de valorisation extrême comme dans le sens de dénigrement, mais la voie est ouverte, et comme disait Simone de Beauvoir, la femme libre est seulement en train de naître.
Merci pour cette très, très belle phrase. Les auditeurs trouveront donc les références de vos livres sur notre site internet, sur franceculture.com. Je voudrais donc rappeler le colloque donc international qui va avoir lieu donc sous la direction de Julia Kristeva à l'université donc Paris Diderot, mais ça se passe 5 rue de l'école de l'université donc au Cordelier, à l'école rue de l'école de médecine, 9, 10 et 11 janvier. Je voudrais signaler aussi le film de Virginie Linhart, On ne naît pas femme, qui passera le 10 janvier sur France 5. Voilà, c'était les Vendredis de la philosophie, présentés par François Noudelman, avec la collaboration de Marianne Chasseur. Merci pour les archives aussi, Sandra Escamez, Alina. À la technique, Alexandre Dang, réalisation Françoise Camard. Et notre prochaine émission, À quoi pensent les rêves, la semaine prochaine.